Deuxième partie, une conversation inattendue. Le vent jaune soufflant du désert de Gobi avait obligeamment arrêté sa course à l'intérieur de la capitale du Nord, et je pus aventurer, sur le coup de 5 heures, sans risquer cette fois de mordre la poussière, mes pas et ma physionomie dans les Hongtong ruelles apoplectiques de Pékin. Le directeur Yen, président du conseil par intérim et ministre des Affaires étrangères par bonté d'âme, m'attendait au Waichao Put. Quand j'arrivais devant l'entrée de cette demeure d'État, les deux dragons qui ressortaient en verre dépoli sur les glaces de la porte frétillèrent de leur queue de serpent, et je ne tardais pas à m'apercevoir qu'ils échangeaient entre eux un bref dialogue. « Mon cher, disait à celui de gauche le dragon de droite, n'est-ce pas un visiteur qui nous vient ?»« On dirait, » fit l'autre. « Alors, puisque nous voici un visiteur, c'est que notre ministre n'est pas un fantôme, comme l'ose prétendre la rumeur des hommes. » »« Oh, mais la raison parle par ta langue de vipère, » répondit le dragon de gauche. « Aussi, je me sens tout ragaillardi. » Et tous deux, à mon passage, essayèrent de fixer leurs petites moustaches, mais leur patte à griffes de lion se trouva trop courte. J'étais dans l'antichambre. Elle résonna sous mes pas, telle une caverne inhabitée, et les murs, contents eux aussi de revoir un être en marche, me renvoyaient, comme pour m'inciter à jouer, l'écho de mes talons sonores. Des boys surgirent. Ils volèrent, étonnés, autour de moi, mais je vis bien qu'ils ne me prenaient pas pour un personnage réel. « Monsieur le docteur Yen, président du conseil par intérim et ministre des Affaires étrangères, quand même » criai-je d'une voix assez forte pour leur prouver que je n'étais pas un sylphe. Ils se frottèrent les yeux et prirent mon pardessus jaune, mon chapeau gris et ma canne noire. Un grand vestiaire étalait devant eux sa rangée de 300 numéros. Il était vide. Au numéro 211, ils mirent le pardessus, au 213 le chapeau, et posèrent la canne horizontalement pour qu'elle occupât à elle seule les 214, 15 et 216. Les serviteurs paraissaient si satisfaits de pouvoir enfin jeter quelques pâtures à ces porte-manteaux que, fouillant dans ma poche, j'en retirai un cache-colle. « Oh, tenez » dis-je. Ivres de joie, les boys accrochèrent le foulard au 217. Ainsi, à moi seul, tenais-je lieu de 6 visiteurs. Et toute la valetaille, comme si j'avais été allongé dans un cercueil et qu'il eût fallu 8 hommes pour le porter, m'introduisit, grisé par l'aventure, chez son Excellence. « Vous avez voulu me voir ?» dit le docteur Yen d'une ravissante humeur. L'homme d'État quitta son fauteuil ministériel et vient s'asseoir près de la fenêtre sur le strapontin. De la sorte, dit-il, marquant la nuance d'un coup d'œil, ce sera plus exact. Je lui dis, « Oh, je craignais, monsieur le ministre, de ne pas arriver à temps. Depuis 20 jours, la première nouvelle qui me réveille chaque matin est celle de votre démission. Vous devez la donner tous les soirs, à 6 heures. Heureusement qu'il n'est encore que 5 heures, 1 quart. Il nous reste 45 minutes. » Le docteur Yen, dont les yeux encadrés d'écailles et nageaient dans le contentement, expliqua. Oui, « On croit communément que le plus difficile dans des carrières comme la mienne, c'est de devenir ministre. Hélas, monsieur, c'est de cesser de l'être. Si vous m'apportez un moyen de me tirer d'embarras, ma reconnaissance vous suivra éternellement. » Et, fis-je, si vous partez, que restera-t-il? C'est bien la question. Le chien d'an est de trouver un successeur. Ce n'est pas que j'ai énormément à faire. Cependant, je suis toujours le gouvernement central. » Il s'efforçait de ne pas trop sourire. « Oh, je ne suis pas tout seul. J'ai, paraît-il, 2 ou 3 autres ministres qui sont encore à leur poste. Le ministre des Finances, par exemple, du moins on me l'affirme. En fait, ne pourriez-vous pas me dire exactement où se trouve mon ministre des Finances ? J'en aurais le plus pressant besoin. Ne l'avez-vous pas rencontré dans un de vos voyages? Qu'il soit à son poste, je n'en doute pas, mais où a-t-il transporté son poste? Voyez-vous, monsieur, ce qui se passe précisément en Chine À propos, y comprenez-vous quelque chose? Oh non, pas un mot. Mais ni moi non plus. Je vous disais donc que ce qui se passe en Chine tient plutôt du phénomène céleste que de la politique. Un pays, c'est pas un individu comme moi, comme vous. C'est une grande chose avec un passé et un avenir. Or, ce passé, cet avenir intact, ou presque. Tenez, nous sommes à la période du vent jaune. Le vent jaune, ce n'est pas Pékin. Pékin, 11 mois de l'année, connaît le plus beau ciel d'Asie. Chacun vous le dira, mais voilà. Une fois par an, il y a le vent jaune. Que pouvons-nous contre le vent jaune? Rentrer chez soi. Vous l'avez dit, en politique souffle à cette heure un autre vent jaune. Et c'est pourquoi vous comprendrez, et si je riais sur toute leur largeur, que je me sente réellement fatigué et que je désire rentrer chez moi. Mais je veux revenir à ma Chine. Ce n'est pas un pays, monsieur, c'est un continent. C'est plus grand que votre Europe tout entière. 400 millions de concitoyens. Voyez quel mal vous avez pour vous entendre à l'autre bout du monde. Et que faites-vous? Vous patientez. Alors patientons aussi. D'autant que dans notre cas, c'est un malheur pour un seul peuple, le nôtre. Nous nous déchirons, mais en famille. Nos chiens sont subitement devant des loups, mais ils n'ont pas quitté leur ferme. Des satrapes mettent simplement de l'argent dans leurs poches. C'est un militarisme domestique. Alors, en fait, de satrape, savez-vous que j'ai vu Tsang Shaolin à Mukden? Quel beau bandit! Oh, c'est le plus magnifique de ma collection. Chut, dit monsieur le docteur Yen, président du conseil par intérim et ministre des Affaires étrangères par résignation. Ne parlez pas si haut. Les avant-gardes, monsieur le maréchal Tsang Shaolin, sont à 30 kilomètres de ce bureau. L'autorité, continua-t-il, est bouleversée. Oh, je ne saurais vous le cacher. Sans doute aussi, il y a une absence de discipline. Les soldats n'appartiennent plus à l'État, mais à des particuliers. Nous sommes une république parlementaire, mais nous n'avons plus de parlement. Monsieur le président du conseil est en congé à Tiemcen sur la concession française, où, paraît-il, l'air est salubre, et cela depuis 86 jours. 86 jours, répéta le docteur Yen, quel vénard! Mes autres collègues, pris subitement d'un urgent besoin de déplacement, se sont dispersés aux quatre coins de l'horizon pour écrire des poèmes sur toutes les phases de la lune. Le pays est riche. Notre monnaie vaut plus de son double d'avant-guerre. L'or sonne dans tous les goussets des vides goussets. Mais le gouvernement, que j'ai l'honneur de représenter in extremis, n'a plus une sapec. Prêtez-moi donc une allumette, fit insolemment le ministre. Les fonctionnaires ne montent plus chaque matin à leur travail, mais à l'assaut de nos caisses vides. Le Sud dit que le Nord n'est pas légitime. Et le Nord, c'est moi. L'État que représente M. le maréchal Tsang Shaolin menace par-dessus ma tête d'anéantir le centre que gère monsieur le maréchal Wupefou. Le vent jaune s'en mêle. Bref, pour l'heure, le système est légèrement dérangé. Un chat, surgissant d'un meuble de bibliothèque, se mit à miauler comme sur un toit. Le président du conseil lui parla en chinois et le chat réintégra sa bibliothèque. Cependant, monsieur, souvenons-nous, un gouvernement, comme vous et moi avons l'habitude de l'étendre, est-il en général aussi indispensable que cela au bonheur des États? La Chine, pour son compte, a toujours eu très peu de gouvernement, et, j'ose le dire, cela ne lui causa jamais de notables malheurs. En 1900, par exemple, quand feu Sa Majesté l'Empereur. Que ces mâts n'osent pas insatisfaits hors de leur cercueil, fis-je. Merci. Quand monsieur feu Sa Majesté l'Empereur, devançant dans leur goût de voyage mes honorables collègues d'aujourd'hui, quitta Pékin, la Chine, qui avait perdu du même coup tout pouvoir central, ne cessa pas d'exister. N'êtes-vous pas frappé actuellement par l'ordre particulier qui règne dans le désordre général? Voyez le peuple. Cette île qui n'a pas de gouvernement, s'occupe-t-il du nord ou du sud? Que je brûle du désir de donner chaque matin ma démission, cela l'empêche-t-il de trouver la même saveur à son riz? Les marchands de lanternes composent toujours des lanternes, les garçons continuent de lutiner les filles, et les coulis de tirer les Rücksbau. Le vent jaune le plaquait son épouvantable poussière contre les carreaux qui crissaient. Avez-vous des lunettes, monsieur? Oh, si elles peuvent vous faire plaisir, monsieur le président, les voici. Gardez, non, par hasard j'en ai. C'est pour vous quand vous sortirez. Et le docteur Yen jouait joyeusement. S'il parlait le français avec lenteur, ce n'était pas pour rassembler ses mots, mais pour mieux goûter la récréation qu'il s'accordait. C'est qu'il fait partie de ces Chinois dont l'esprit, vaste comme leur empire, offre tous les tons de l'intelligence. En France, monsieur, croyez-vous au sort? Oh, guerre au-delà de l'affaire de prendre ou ne pas prendre le train un vendredi 13. N'est pas suffisant. Je comprends dans ce cas que vous ne puissiez vous passer de gouvernement. En un mot, vous croyez dur comme fer aux pauvres hommes que nous sommes. Vous avez la conviction que rien ne se veut régler sans votre entremise. J'aime cette confiance en des moyens humains. Oh, je dois vous être d'un haut secours moral et soutenir vos hommes d'État dans l'accomplissement de leurs devoirs éphémères et durs. Et pour nous, Chinois, le destin compte davantage. Et c'est ce qui vous explique la situation actuelle de la République du Céleste Empire. Les hommes sont si pondérables et le mystère de l'infini si impondérable. Agir quand l'inconnu décide de temporiser. Bien vain mouvement de la part de nos membres. De même que la mer monte et se retire, que la lune paraît et disparaît, toujours la paix succéda à la guerre, et toujours le châtiment suivit le crime. Nous croyons à la loi de redressement et de punition. Ces messieurs, monsieur le maréchal Sang-Solin et monsieur le maréchal Wu Peifu, nos maîtres d'aujourd'hui, sentent fort justement, j'en suis sûr, que tout ce qui étincelle n'est pas diamant. Ils savent que les hommes, même devenus des chefs, ne sont pas libres, et qu'à la fin, les dieux décident. C'est pour cela, n'en doutez pas, que rien ne les presse de résoudre ce que vous appelez dans votre Occident le chaos chinois, et qu'est-ce qu'autant l'intervention surnaturelle qui ne peut manquer de se produire et peut-être de les sauver, au lieu de se battre et d'en finir ce qui serait fragile. Ils se contentent de se provoquer, ce qui est durable et plein de possibilités. La pendule du cabinet sonna 6 coups. « Oh, 6 heures !» fit-il en sursautant. « Vous n'allez pas donner votre démission, monsieur le ministre. Vous ne ferez pas cela devant moi. »« Oh, ne craignez rien. Vous aurez le temps de vous retirer. Ma pendule avance de 10 minutes. » »« Où il faut 8 démarches pour voir clair. » « Que l'on me réveille, que l'on me fasse passer par les baguettes, s'il le faut, mais je veux être rappelé à la réalité. Oh, je dois dormir encore. Voici ce que je lis ce matin dans la politique de Pékin. Un décret impérial daté du 15 mars 1922 a promu Yung Yuan au rang de mandarin de première classe, faisant fonction de garde impérial auprès de Sa Majesté Yan Zung. Le même décret lui accorde le privilège de monter à cheval dans la cité interdite. C'est que notre jeune empereur, 17 ans, vient de se fiancer avec la fille de Yung Yuan. La fiancée est âgée de 19 ans. Elle est, dit-on, assez jolie. À côté de l'impératrice, une concubine vient d'être également choisie pour le jeune fils du ciel. Celle-ci est fille de Tuan Kung, mandarin de 5e classe. Elle a 16 ans. Je m'arrêtais, mais qui m'avait dit que la Chine était une république? Quel est le plaisantin qui s'est ainsi offert ma naïve figure? Mais il y avait encore un paragraphe. La jeune femme est arrivée vendredi matin à 10h30 à Tianjin. Les honneurs lui ont été rendus. Musique et garde. Elle est montée en automobile et, précédée de plusieurs rangs de cyclistes, a gagné immédiatement le palais. Haut dignitaire, envoyé de Sa Majesté, parents, suivaient dans 9 automobiles. La future concubine est attendue prochainement. Oh, mon chapeau, toujours mon chapeau gris, ma canne et mon manteau. Oh, j'ai soif de lumière. Il faut que je sache sous quel régime vit la Chine. Mais voici le boy de l'ascenseur. Ce n'est qu'un boy, néanmoins, c'est un Chinois. Il va pouvoir m'éclairer. Boy, la Chine est-elle une république ou un empire? Mais il tire la corde sur l'ascenseur et ma question ne l'atteint pas. Non, c'est pas pour te charrier, bon vieux. Réponds-moi, ce sera gentil de ta part. Voici 1 dollar. Mais je ne sais pas, sire, fait-il obligeamment. C'est bien cela, il ne sait pas, on ne sait pas, ni moi non plus, c'est évident, je ne sais pas. Je suis déjà dans le hall. Qui peut me renseigner? Sont ces Américains touristes qui ont encore le jambon de leur breakfast sur les joues? Pardon, dis-je en m'approchant d'eux. La Chine est-elle une république ou un empire? D'un regard d'homme bien nourri, ils me chassent de leurs rayons comme un fou famélique. Je sors et me rends à la poste. Le fonctionnaire chinois est derrière sa petite grille. J'apprivoise l'homme, lui achète des timbres, lui demande si les courriers fonctionnent avec satisfaction, etc. Dites, mon ami, pourriez-vous me donner un renseignement? En Chine, avez-vous un président de république ou un empereur? Oh, nous avons les deux, répond-il. Je prends la porte et me plante contre un arbre. Je vais réfléchir un moment. Voyons, hier j'ai vu un monsieur. Je l'ai touché. Il avait 1,85 m de taille. Il m'a dit qu'il était le chef de l'État, le seul. 2 heures après, il m'a envoyé sa photographie. Ai-je des visions? Mais on me frappe sur l'épaule. Je sursaute, c'est un Chinois, noble connaisseur de Mukden. Êtes-vous malade? Me demande-t-il en me voyant contre l'arbre. Non, dis-je, je suis perplexe. Au fait, quel est le chef de l'État chez vous? Oh, cela dépend comme vous l'entendez. Oh, clairement, fis-je, voilà comme je l'entends. Eh bien, clairement, le chef de l'État est le président de la République. Mais il y a aussi l'empereur, bien entendu. Et pour moi, le maître est Tsang Tsaolin. Adieu, fis-je. Je file vers le quartier des légations. Là, on doit savoir. Le premier diplomate que je rencontre, je l'accroche. Il avait un, justement, ayant une raquette sous le bras. C'était un secrétaire de la Belgique. Ah, voilà bien la diplomatie, pensais-je. Elle va jouer au tennis alors qu'elle ne sait peut-être pas plus que nous. Donc elle est le chef d'État. Ah, le chef de l'État, dit mon aimable ami, se grattant les favoris à la hauteur du lobe. La Belgique appela à son secours le Danemark, qui soutenait une seconde raquette. Voyons, firent-ils ensemble. Puis ils firent signe à l'Italie qui portait une troisième raquette. Oh, les raquettes de Pékin sont de curieuses habitudes, songeai-je. Il faut les promener matin et soir comme les petits chiens. Mais les trois émules de Talleyrand, ayant tenu conseil, me déclarèrent: Bon, c'est vraiment difficile à préciser. Merci. Le mieux est de se rendre au journal qui a donné la nouvelle. Laissons passer d'abord cette caravane de chameaux. En voilà des animaux qui sont heureux. Ils ne font pas un pas plus vite que l'autre. On voit bien qu'ils n'ont pas la politique de Pékin, ils ne l'ont pas lue ce matin. Mais tout le monde ne peut pas être chameau. Bonjour, monsieur Monestier. Bonjour, vous avez l'air soucieux. Oui, vous avez publié aujourd'hui. Je lui montre la chose. Oui, parfaitement. C'est une blague. Oh non, pas du tout. Alors la Chine n'est pas une république. Si fait. Mais l'empereur, c'est l'empereur de la République de Chine. Cette république a un président. Bon, c'est donc, si vous préférez, l'empereur du président de la République de Chine. Oh non, ne jouez pas avec moi, monsieur. Mon assiégée, puis elle est venue en Chine, elle a quitté sans savoir si la Chine est une république ou un empire. Mais depuis combien de temps êtes-vous ici? Depuis 40 jours. Eh, fut-il, moi j'y suis depuis 17 ans, je ne le sais pas encore. Depuis 17 ans, vous dirigez un journal qui s'appelle La politique de Pékin et... ma parole. Mais vous vous moquez de moi, monsieur Monestier. Ce n'est pas bien. Adieu. Je partis droit chez son concurrent. Voilà comme je suis. Je rends sur le champ les offenses que l'on m'afflige. Son concurrent, M. Albert, beau prénom, Albert Nadbeau, du journal de Pékin. Il logeait naturellement, comme chacun, dans un hutong, c'est-à-dire une ruelle. Mais c'est ici, fort bien porté. Nadbeau, en bras de chemise, chantait. Un vrai dîner chinois, c'est un festin de roi. Tous les vins, tous les mets, tous les meilleurs fumets. Mais c'est loin de valoir une entrecôte aux pommes, mais c'est loin de valoir une raie au beurre noir. Oh, vous êtes gai, vous, on voit que vous n'avez pas de soucis. Qu'est-ce que cela peut vous faire, en effet, de savoir si la Chine est une république ou un empire? Moi, dit-il, je m'en fous. Nadbeau, accordez-moi une minute. Mais c'est loin de valoir une raie au beurre noir. « Dites, mon vieux, je voudrais vous parler sérieusement. »« Vous êtes venu en Chine pour parler sérieusement ?»« Mais l'empereur, eh bien, c'est l'empereur. »« Et le président de la République, c'est le président de la République. »« Mais l'empereur, sait-il alors qu'il n'est plus entièrement empereur ?»« Non. »« Mais qui lui donne de l'argent ?»« La République. » Alors il sait qu'il y a une république. Non, mais non. Il croit que c'est une institution comme le ministère des Finances, par exemple. Mais quels sont leurs rapports? Qu'échangent-ils? Ils échangent des cadeaux? Bon, mais quels sont respectivement leurs rôles? L'empereur, que fait-il? Ben, il élève des canards. Et le président de la République? Il les mange? Non, bon, mon vieux, vous savez que je ne suis pas venu en Chine pour rigoler. Oh, encore un qui n'est pas venu en Chine pour rigoler. Mais vous êtes peut-être ici, vous ceci, pour découvrir le citoyen chinois. Oh, si vous ne voulez pas rigoler, c'est votre droit, mais laissez-moi rire. Depuis plus d'un mois, vous êtes là, vous martyrisant de ce qui vous sert de cerveau. Vous voulez comprendre ce qui se passe en Chine? Mais au cinéma, quand c'est l'heure du film comique, prenez-vous votre noble front dans vos nobles mains, comme un penseur. Vous dilatez votre rate et non vos méninges. La Chine, c'est Charlot, c'est le Charlie Chaplin du vaste écran politique. Rio, vieux compatriote, la Russie, c'est le drame, la Chine, c'est la farce. Et vous, vous êtes un farceur, et adieu. Je bondis dans un rigoureux et me fis conduire chez le Bouddha vivant. Le Bouddha vivant est un personnage dans le genre de Pie XI, mais pour la religion lamaïque seulement. C'était en principe une haute conscience, de plus son esprit sanctifié offrait toute garantie de gravité. À mon arrivée, le Bouddha vivant était en prière au fond de la quatrième cour. Autour du sein, une trentaine de bœufs, de cerfs, de rhinocéros et de démons terrifiants dansaient le putschach. D'abord un peu étonné, je compris assez rapidement que ces animaux valseurs, n'ayant que deux pattes, n'étaient autres que des bonzes tibétains coiffés de têtes en carton. C'était la prière pour reconduire les esprits malfaisants. Néanmoins, je demeurai. Cette bamboula dura 10 minutes. Alors, deux lamas eunuques apparurent portant sur leurs épaules quelque chose comme un bonhomme de neige. C'était la statue du diable. Et la bamboula recommença. Ceux qui représentaient les rhinocéros bramaient comme des cerfs quand pousse leur bois. Les cerfs glapissaient comme un chacal affamé. Les bœufs piaillaient comme des moineaux insouciants. Quant aux démons, ils avaient la voix des anges. Et toute la séquelle, suivant la statue du diable, passa dans une cinquième cour processionnellement. Un tas d'herbes sèches y était préparé. Les eunuques jetèrent le diable dessus. Un silence plana. À cet instant, le Bouddha, vivant, s'avança vers le bûcher. Là, il fouilla parmi ses innombrables robes et finit par en extraire une boîte d'allumettes japonaises. Il rata la première et rata la seconde. Le silence planait toujours. À la troisième, il lâcha un juron tibétain, mais il réussit à la quatrième. Se baissant, il mit le feu aux herbes. Ce fut un signal. Les bonzes tirèrent des pétards, et le diable, en brûlant, dégageait une odeur de boulangerie. Il était en farine. La cérémonie était terminée. Je m'approchai du Bouddha vivant. « Grand saint, fis-je d'abord, daigne bénir l'incroyant que je suis. Ensuite, ô puits de tout savoir, condescends à m'apprendre qui dirige aujourd'hui la Chine. » C'est Padma Gambhava, né du lotus, l'éternel génie vivifiant. Mais à part lui, grand saint, est-ce Sa Majesté l'Empereur ou Sa Roture, le Président de la République ? Oh, à part lui, répondit le saint, et j'allais enfin comprendre la question chinoise. À part lui, qu'importe ? Éloge de l'anarchie. La Chine trouble en ce moment toutes les solides idées qu'un citoyen conscient peut avoir sur la nécessité d'un gouvernement. Elle prouve que les gouvernements ne sont pas nécessaires à la vie ni au bonheur du peuple. Beaucoup de malicieux esprits s'en doutaient déjà, mais aujourd'hui peuvent en être certains. On dit aux voyageurs « L'empire du milieu est en ruine. Ne longez jamais ses murs, les tuiles tombent. Il ne possède plus rien de ce qui fait la force des États, ni président du conseil, ni ministre, ni généraux à lui. Les fonctionnaires qui devraient tout faire fonctionner ne fonctionnent plus. Pour ce qui est de ses finances, c'est la banqueroute. En revanche, il a un empereur, 2 présidents de république, 3 super-dictateurs et 19 moyens tyrans. « Pauvre peuple !» s'écrie le voyageur, « en quel état vais-je te trouver ?» Et le voyageur débarque. Ému, il cherche sur le chemin les marques d'une si effroyable malheur. Pas de gouvernement, quelle catastrophe! Mais il entend une rumeur. C'est le peuple qui gémit, pense-t-il. Non, c'est un groupe d'honorables individus qui, assis dans de l'ordure, en plein air, jouent au machang, sorte de domino poker. Misérable, leur dit le pèlerin, vous n'avez pas de gouvernement, et le derrière dans l'ordure, vous jouez au domino poker. Mais au fou, lui crie le citoyen, quoi l'on mêle, il a perdu la raison. Mais l'heure devient plus sérieuse. Le voyageur doit prendre le train. Mais comment fera-t-il? Il n'y a plus de ministre des communications. L'homme un jour sauta sur sa plus rapide locomotive et plus personne ne l'a revu. Les chefs de gare, au grand cœur humanitaire, trouvant que les wagons ont suffisamment roulé, les envoient au bain de mer où ils finissent leur jour au soleil et sur la grève comme cabine de première classe. Les tyrans déboulonnent les rails de leur secteur pour se construire des tours Eiffel. Le voyageur, néanmoins, va à la gare. Je vous prie, noble voyageur, lui dit un des pauvres Chinois en état d'anarchie, veuillez me suivre. Le train chauffe, une portière est ouverte. Montez, s'il vous plaît. Mais, dit-il, il n'y a plus de ministre, plus de vagabond, plus de. Le sifflet lui coupe la parole. Le train glisse, la nuit est bonne, et le lendemain matin, il entend brailler Pékin! Il regarde l'horloge. Le train arrive à l'heure, tout comme s'il y avait un gouvernement. Mais alors, l'anarchie, citoyen, l'anarchie. Il n'a pas le temps de finir. On lui prend ses valises, on le met dans une bonne voiture, et 10 minutes après, il se sent soulevé par un ascenseur. On le pousse doucement dans une chambre chaude et le boy paraît. Oh, toi ne t'en vas pas, lui dit-il, tu arrives à ce point. Comment as-tu arrangé ta vie depuis que tu es privé de gouvernement? Il répond à peu près qu'il est toujours content quand il voit des clients, parce que voir des clients, c'est apercevoir des dollars. Bon, ce n'est pas ce que je te demande, garçon vénal. C'est aux citoyens que je m'adresse. Moi, dit-il, pas citoyen, mais boy. Voyageur, mon frère, n'insiste pas. Sors, enquête, va frapper chez les Chinois à boutons. Ah, justement, il en connaissait un. Depuis que votre gouvernement est mort, pauvre ami, lui dit-il, comment vivez-vous? Quoi? Qui est mort? Fait le Chinois anxieux. Ben, votre gouvernement. Il respire. Ah oui, oh bien, depuis qu'il est mort, tout le monde se porte bien. Quitte cet homme me satisfait, ce n'est qu'un égoïste. Parce que lui, il ne manque de rien, qu'il a un jardin de pierre vertical, une femme, 7 concubines, un ongle long au petit doigt et des lunettes qui montrent qu'il est lettré, il trouve que tout est bien. Mais va un peu derrière la porte de Tianmen, voyageur. Là, tu seras dans la ville chinoise. Et tu comprendras ce que souffre un peuple sans gouvernement. Il y va, et tout est gai, grouillant. Pardon, demande-t-il, est-ce ici la ville chinoise? Mais comment, lui répond-on, vous ne le sentez pas? C'est vrai, dit-il, portant subitement son mouchoir à son nez. Merci. Et voulant enfin voir clair, il prend par la rue des Lanternes. Ici, tous les individus du monde. La race jaune et la race blanche achètent des lampions avec leur nom peint dessus en caractère chinois. Cela fait, paraît-il, très bien dans son antichambre. Mais puisque pour acheter des lampions, il faut avoir une antichambre, notre voyageur n'acheta pas le lampion, vu que n'ayant pas de chambre dans son pays, il ne pouvait avoir d'antichambre. D'ailleurs, en revanche, il avait son idée. Il choisit un magasin, alla au fond, et après un préambule de dit aux 4 nobles commerçants chinois qui l'accueillaient. Comment va votre commerce depuis que vous n'avez plus de gouvernement? Les 4 Chinois, aïeul, grand-père, fils et petit-fils, les mains cachées dans leurs manches réunies, rirent à petits coups jusqu'à leur nombril. Il y a de quoi pleurer. Et vous riez, leur dit-il. L'aïeul répondit, mais le commerce a besoin de clients et non pas de gouvernement. Homme sans éducation civique, fit le voyageur en se retirant, rempli de mépris. Mais une providentielle occasion allait se présenter à lui. Le soir même, 14 messieurs, qui certainement, puisqu'on l'affirme, mènent l'opinion, des journalistes chinois pour tout dire, l'invitait à un festin. Il s'y rendit. Tout était prêt, les tables rondes et les chanteuses et le violon à une corde et tant de mets de la belle mine qu'il décida de n'y point toucher. Mais il dit à ses hôtes, Messieurs, je fais appel à votre bonne foi. Le peuple de Chine est malheureux. Vous savez comme moi que dans le royaume de Tsang Shaolin, chacun tremble. Et que lorsqu'un de vos tyrans a besoin d'argent, il pille les particuliers. qu'il abroge les troupes. Les femmes qui veulent rester pures se jettent dans le puits, et que, lorsque le paysan a commencé sa terre, les hordes viennent ensuite la retourner. Mais est-ce du désordre, oui ou non? Êtes-vous franchement si levant? Cet état, à la présence d'un gouvernement, ne se fait pas sentir. Oh, confrère blanc, répondit le plus âgé, tu juges sans réflexion. Les sujets de Tsang tremblent, dis-tu, mais s'ils tremblent, ce n'est pas parce qu'ils sont les sujets de Tsang, mais parce qu'ils ont toujours tremblé. Aujourd'hui, le maître s'appelle Tung Kyun, autrefois il portait le nom de mandarin. Le chinois a passé sa longue vie à ramper devant tous les seigneurs pour éviter leurs fantaisies cruelles. S'il ne tremblait plus, c'est alors qu'il y aurait du changement et que tu aurais le droit de t'écrier « La Chine est en décomposition, c'est l'anarchie ». Le Tung Kyun impose le peuple, dis-tu, mais à quel moment le peuple n'a-t-il pas été imposé? Et que ce soit par le Konkin ou le gouvernement, si le pirate n'exige pas davantage que le protecteur, quelle différence veux-tu que le peuple y trouve? Quant à l'épisode des femmes et des puits, sache que ce n'est pas là une affaire gouvernementale. C'est une vieille coutume nationale. De tout temps, beaucoup de femmes, à un certain détour de leur existence, ont poussé et épousé le puits, de gré ou de force. Et crois-moi, à la minute où nos chères compagnes se laissent glisser dans l'eau potable, il ne leur vient pas l'idée de se dire qu'elles n'en seraient pas là s'il y avait un gouvernement. Alors, s'écria le voyageur, où réside l'anarchie qui, selon tout bon esprit, dévore la Chine? L'anarchie réside dans le cerveau des hommes de ton espèce, répondit toujours le plus âgé. Vous figurez en Europe que vous détenez la vérité. Parce que chez vous, vos pays ont un gouvernement à leur tête, vous croyez d'abord que c'est le gouvernement qui fait marcher le pays, et ensuite que tout autre pays, pour fonctionner, doit avoir comme le vôtre un gouvernement. Mais confessez ici votre erreur. Si les bolcheviks, qui eux aussi cherchaient un nouveau système, nous avaient imités, il y a longtemps, avec le bruit qu'ils ont fait, qu'ils auraient conquis le monde. Mais eux ne se sont pas contentés de démolir, ils ont voulu reconstruire. Ce fut leur faute. Nous, nous n'avons plus rien. Ni suffrage universel, ni suffrage de classe, ni soviet, ni gouvernement, ni député, ni commissaire. Et quant à la caisse de l'État, elle est sèche comme une figue de 3 ans. L'État est mort, mais le pays vit. Jamais le paysan n'a mieux vécu que depuis qu'il n'y a plus d'État. Oh, permettez, on l'a vu à plus d'entrain que jadis. Le particulier cache dans sa poche 1 dollar, qui vaut 7 bons francs, au lieu de 2,50. Les canards laqués pendent par milliers. Le coupion bien frais au crochet des marchands de volailles avec taille. Il n'y a pas plus de crime qu'avant. Les bandits n'attaquent nos trains que modérément, tendant à prouver que depuis qu'ils sont libres, ils n'abusent pas. Nos lettres arrivent, les télégrammes circulent rapides comme la pensée. Nous jouons matchang à volonté. Les petites chanteuses chantent toujours comme de gros eunuques. Les hirondelles continuent de faire des nids. Les requins ont encore des ailerons. La drogue ne manque pas et nos cercueils sont aussi bons bois. Mais c'est l'éloge de l'anarchie que vous prononcez là, malheureux. « Vous l'avez dit, » fit toujours le plus âgé, en levant d'une main sa tasse de vin chinois, tandis que de l'autre il caressait la nuque huilée de sa petite chanteuse cantonaise. Une veillée d'armes à la chinoise. « C'est décidé, on va se battre, la Chine va tirer son sabre contre la Chine. » Vous avez dans l'œil, je l'espère, la situation militaire du Céleste Empire. Je fis au début un assez rude effort pour vous l'exposer. Si vous n'aviez rien retenu, ce serait à vous décourager de vous fournir des explications. Mais je suis tranquille. Une question de cette importance n'a pas pu vous laisser indifférent. Néanmoins, je vais vous rafraîchir la mémoire. Au centre de la Chine se trouve un homme au nom mutin Okupefu. Ce charmant garçon a 300 000 soldats. C'est le Baudet. Nous voulons dire que c'est sur lui qu'on crie « Haro ». Et au nord, mon vieil ami de grand chemin, le coupe-jarret de Sainte-Saoline, se prépare à l'attaquer. Ce combat aura lieu non à l'honneur d'une femme sur de la branche, mais de deux Chinois en pantoufles. Le maréchal Tuang Si-jui et le président du conseil en congé, Liang Xieli. Si le coup réussit, le maréchal, n'ayant plus mal aux yeux, deviendra président de la République. Et le président du conseil, guéri de ses rhumatismes, cessera d'être en congé. Tous les deux sont en ce moment à Tianjin. Tuang sur la concession japonaise, Liang sur la concession française. Le Japon étant bon pour l'ophtalmie et la France pour l'arthritisme. Nous allons gagner Tianjin et leur rendre visite. Auparavant, je dois calmer vos alarmes. Quoi, pensez-vous? Encore des massacres? Le sang n'a donc pas assez coulé? Non, il a suffisamment coulé. Et c'est bien la vie des maréchaux chinois. Dans la dernière grande affaire guerrière, pour un train de soldats, on comptait 4 trains d'infirmiers. Et par surcroît de précaution, on arrêta le combat au 3e blessé. Ajoutons que malgré ça, il y eut un mort, un cheval, tué par l'âge. Bon, maintenant, allons à la gare. Pékin n'est pas autrement fier. Le dragon, fils de la peur, passe dans le ciel. La ville du monde la mieux murée renifle et dit « ça sent la poudre !» Sentir la poudre 15 jours avant le premier coup de fusil, c'est ce qui s'appelle avoir l'odorat développé. À la sublime pagaille politique s'ajoute l'inquiétude populaire. Les faubourgs de Tianmen et de Hotmen courbent déjà les Chines. De hautes brouettes surchargées de caisses s'engouffrent par les portes étroites du quartier diplomatique. On dirait que les villes chinoises et tartares sont en feu et qu'en hâte on sauve les trésors. « Arrêtez-vous » a-t-on envie de crier. « Le quartier est petit, vous allez le faire éclater. Et à moins que l'on ne vous coupe la tête comme aux sardines, vous ne pourrez y tenir tous. » Mais ils ne cessent d'enfourner. Et les Chinois se ruent à l'assaut de l'hôtel des wagons-lits. Providentielle auberge. Elle jouit du privilège de l'extériorité. Alors, chaque chambre est louée 6 fois. Mais, fait remarquer le manager au nouveau client, ils sont déjà 6 dans la chambre que vous demandez. Que importe, répond le Chinois, ce sont mes amis, et je paierai comme si j'étais seul. « J'espère bien, » réplique le tenancier, qui, grisé par le succès, crie à la caisse. « 7 personnes au numéro 87 !» On prend le Chinois à part et on lui dit « Voyons, la bataille n'aura pas lieu à Pékin. Pour entendre un coup de fusil, il faudrait que vous eussiez la peau du tympan en pleurs d'oignons. Et de plus, vos 1000 policiers, accompagnés de leurs 8 mitrailleuses, ont reçu l'ordre de veiller aux portes des murailles. Hélas, nos policiers n'ont que 8 mitrailleuses, ainsi que vous le dites. Et vous trouvez que c'est pas suffisant? Oh non, monsieur, ce n'est pas suffisant. Et pourquoi, monsieur? Ben parce que Pékin a 9 portes, monsieur. Mais allons à la gare. Je prends mon billet, $5.20. Je signale ce détail, non pour montrer qu'à cette époque j'avais encore $5.20, mais... j'ai mon motif. Le train démarre, nous sommes 8 dans le compartiment, 7 célestes et 1 sauvage, moi. Alors, expectorant 2 grognements qui signifient « Vos billets, s'il vous plaît !» Le contrôleur, tenant en main comme une massue, son instrument contondant et perforateur apparaît. Le premier Chinois se lève en souriant et lui dit un mot à l'oreille. Le second lui lance un coup d'œil conventionnel. Le troisième lui donne une poignée de main. Aucun n'a de billet. Le quatrième lui donne aussi une poignée de main. Et le cinquième lui donne également une poignée de main. Mais curieux, ils sont tous copains dans ce pays, pensais-je. Mais quand le sixième lui donna sa poignée de main, Le contact des deux paumes provoqua un son métallique. Ma perspicacité bien connue comprit le jeu. On ne prenait pas de billets, on glissait $1 au contrôleur et tout était réglé. Ayant horreur du scandale, je cachai mon billet, sortis $1. Voilà, fis-je comme à mon tour. Et à l'heure dite, le train arriva. Vive l'anarchie ! Tianjin. C'est alors que, sur le quai, je fis connaissance de Niafron. Au temps fabuleux de mon enfance, c'était déjà mon ami. J'aimais sa trogne. Depuis, je compris que s'il buvait, c'est qu'il avait sans doute ses raisons. Je ne lui avais encore jamais serré la main. Mais ce matin, descendu de son guignol, il venait à moi. La rencontre de ce vieux camarade sur cette terre d'Extrême-Orient m'émut profondément. C'était le lettré chinois, mon second interprète. L'autre, mon premier, de peur de n'avoir pas de chambre à l'hôtel des wagons-lits, m'avait lâchement abandonné. Mon nouveau compagnon avait 1m40 de haut et 1m42 de large. Il était comme en bois et marchait à la manière d'une bonbonne qui aurait voulu le faire à la toupie. Sa tête, vous la connaissez. « Voyez-vous, Niafron, lui dis-je, tandis que nous roulions vers notre premier rendez-vous. « Mais pourquoi m'appelez-vous Niafron ?»« Oh, c'est, dis-je, que vous ressemblez beaucoup à l'un de mes amis qui se nomme Niafron. Mais cela m'est doux, loin de ma patrie, de mêler le passé au présent. »« Oh, je comprends, fit-il, et je suis heureux de cette ressemblance. »« Voyez-vous, lui dis-je, la Chine, votre berceau, est bien troublante. » Tout est cassé et tout fonctionne. Personne ne paie plus ses billets et les trains marchent comme une montre. Mais les trains marchent comme une montre parce que tous ceux qui vivent des trains ont intérêt à les faire marcher. Si chez nous, comme en Russie, c'était la communauté qui empêcha depuis longtemps, tout serait rouillé. L'homme est un vilain animal. Il ne pense et ne pensera jamais qu'à lui. La Chine en ce moment est le triomphe de l'égoïsme sur l'altruisme. Ou si vous préférez, du débrouillard sur l'empoté. Mais nous arrivions chez Duan Xijui, maréchal et candidat à la présidence de la République. Niafron se pencha à mon oreille et me dit « Vous savez, celui-ci n'est pas un voleur, c'est rare !» Le maréchal Duan Xijui était un administrateur désintéressé. Des paysages japonais. Le japonais lui avait prêté un joli petit hôtel muré sur leur concession. Et autour des murs de cet hôtel, ils avaient établi un stade où, nuit et jour, leurs policiers s'entraînaient en vue de la prochaine Olympiade. On nous introduisit dans une pièce nue et le maréchal entra. Son humeur était rose et sa barbe robe bleu pastel. « Excellence, dis-je. Que l'on vous prête d'intentions à Pékin, on prétend que vous êtes le centre de tout ce qui va se passer. » La domesticité, ainsi qu'il convient, s'écrasait à la porte pour écouter. « Il est assez exact, répondit l'homme, qu'il se passera certains événements. Donc si le maréchal Sangsolin détruit Oupefou, vous deviendrez président de la République. » « Il n'est pas possible que Tsang Shaolin ne soit pas vainqueur, d'Oupefou. » Et le maréchal, prenant un crayon, me demandera au nom de ma carte de visite, ce qui n'était pas correct. Sommes-nous en Chine, les cartes de visite sont-elles sacrées ou non? Que Oupefou étant placé comme ça, c'est-à-dire sur une ligne droite, il ne résisterait pas à deux attaques, l'une du nord et l'autre du sud. Mais monsieur le maréchal s'aperçut de sa distraction et que, dans le feu de ses pensées stratégiques, il avait pris mon dreton pour un papier brouillon. Il s'en montra désolé. Il me fallut redonner une autre carte. Ce que je fis, mais non sans murmurer. Mais si Tsang est vainqueur, le croyez-vous incapable de se nommer tout seul président de la République ? Le maréchal garda le silence, mais ses 10 doigts de pied remuèrent nerveusement dans ses pantoufles oranges. Je me levai. Il me retint, ayant encore une déclaration à faire. « Oh, je suis honnête, me dit-il, les profits ne m'ont jamais fait agir. J'appartiens seulement à mon pays, je ne suis pas un homme d'argent. »« C'est vrai, fit l'interprète. » « Mais je ne lui ai rien offert, répondis-je. » Et nous partîmes chez Liang Cheji, Bouddha de la richesse et président du conseil et en congé depuis 92 jours. Monsieur le président du conseil était sur le sol français. Sa maison faisait face à la caserne des Marsouins. Comme cela avait-il pensé, si ça barde, je serais paré. Niafron se pencha à mon oreille et me confia. « Vous savez, celui-ci, c'est un filou. » Je serrai mon portefeuille et j'entrai. Dans une chambre tendue de sombre, monsieur le président du conseil était vêtu de noir. Il avait le sourcil noir, l'œil noir, l'âme noire. Et sa mine était si défaite qu'il devait sortir d'une messe noire. On trouve à Pékin que vos vacances sont bien longues, monsieur le président. Comment vont les rhumatismes de votre excellence? Oh, mes rhumatismes ne vont pas plus vite que les événements. Et avec un sourire féroce, il leur faudra encore un mois ou deux de soins. Oui, le temps que Tsao Tsaoline mettra pour battre ou Pefou. Et alors, monsieur, le pays respirera. L'homme néfaste du centre, ce rejeton d'une infâme femelle, sera mis hors d'état de nuire. Ce fils d'animal est Oupefou. C'est Oupefou qui voilà 92 jours, dit-il à Liang Chai. Tout président du conseil que tu es, tu vas déguerpir ou je t'étrangle. Et monsieur le président va à Tianjin, sans billet, naturellement. Mais quand Oupefou sera battu, et que du coup vous irez mieux. Reprendrez-vous votre poste, monsieur le président ? Oui, dit-il, et alors la Chine respirera. Ce sera la fin de l'anarchie. Niafron, qui certainement n'était pas du parti de monsieur le président du conseil, se tourna vers moi. Quand on lui aura retrouvé sa place, tout ira bien. Voilà ce qu'il dit. Et moi, chinois, je suis forcé d'entendre cela. « Non, monsieur, c'est un lettré qui vous parle, écoutez-moi. Rien ne sera changé, et après ce sera comme avant. » « Bien dit, Niafron. » Et nous nous retirâmes. Dernier chapitre. Un monstre, Shanghai. Mais la Chine n'est pas qu'à Pékin. Il est une Chine autre que celle de Tsang Shaolin et d'Oupefou. Il y a Shanghai, compagnon. Où la Chine internationale et foi d'homme libre, on ne peut pas passer cette ville-là sous silence. Quand tous les coins du monde seront devenus des Shanghai, le monsieur ayant encore le goût des choses de l'esprit devra sur le champ acheter un revolver, le poser sur sa tempe, penser une dernière fois à sa famille, jouer à pile ou face, perdre et se brûler la cervelle. Il est des cités où l'on fait des canons, d'autres des étoffes, d'autres des jambons. À Shanghai, on fait de l'argent. C'est la matière première et dernière. Si l'on se promenait avec ce panier et qu'on précise le pèse le nom des passants, on rentrerait chez soi, fortune faite. On m'avait dit qu'à Shanghai, on ne parlait que l'anglais. Mais c'est un affreux mensonge. Tout alphabet est inconnu. La langue de ce pays n'est pas une langue de lettres, c'est une langue de chiffres. On ne s'aborde pas en se disant « Bonjour, comment allez-vous » mais 48, 53, 12, 05, 5, 60. Pour y devenir millionnaire, inutile de savoir lire, savoir compter suffit. C'est un veau d'or à dit peu. Si Lénine a vu Shanghai, il est excusable. C'est en Chine et ce n'est pas une ville chinoise. Elle enferme 1 million de Chinois. Cela ne prouve rien encore. Ce million de Chinois ne fait pas plus Shanghai que 1000 pous sur un poney ne font le cheval. Vous connaissez les scènes de délirium très minces qui ont eu lieu à Paris aux escaliers de la bourse au coup de midi. Mais alors, chaque capitale respectable de l'Europe et de l'Amérique, on trouve un pareil établissement à l'usage des pauvres bougres, victimes de l'alcoolisme financier. Or, un jour, Mercure, ayant obtenu le don d'ubiquité, tout essoufflé, apparut sur le parvis de ce temple et dit « Mes petits frères, faites silence, j'apporte une parole qui vaut son poids de platine. Je suis venu à telle allure que, si à la place d'elle j'avais eu des roues à mes talons, j'en aurais crevé tous les pneus. Bref, je ne regrette rien de mon message, est beau, écoutez-le. En Extrême-Orient, il est une ville s'appelant Shanghai. Elle a devant elle les routes de toutes les mers et dans son dos 400 millions d'individus à faire boire, manger, jouer, à éclairer, à raser, à tondre. On l'ouvre au marché des Blancs, à vie. Ce fut une ruée. De New York, de Chicago, de Manchester, de Londres, de Lyon, de Hambourg, de Milan, d'Amsterdam, de Barcelone, de Constantinople, de Tokyo, de Bagdad, tous les gentlemen de banque et tous les phrases de bazar se jetèrent ventre à terre sur la ville promise. Ainsi naquit Shanghai de mère chinoise et de père américo-anglo-franco-germano-hollando-italie-jupono-jucolo-espagnol. Banque, bank, banking, banco. 10, 20, 100, 200, il n'y a que ça. Vous n'osez plus lever les yeux. Vous marchez vite, serrant votre portefeuille. Vous tournez à droite, là, vous hasardez un œil. Banco, banking, banque, banque. Et vous défaillez, la sueur au front, et vous asseyez sur le rebord du trottoir. Mais on vous frappe sur l'épaule avec un bâton. C'est un grand démon d'hindou, uniforme bleu, turban rouge, barbe noire. Vous sursautez. Quoi, dites-vous, je suis aux Indes? Non, vous êtes dans la concession internationale. C'est le policeman anglais. Je ne dois pas rester là, je gêne le trafic. Bon, je m'en vais. Je marche. Oh, j'en ai toujours pour peur, pour mon argent. Je marche, les yeux à terre. Dieu, voilà maintenant que c'est écrit sur le bitume en mosaïque. Banking, bank, bank, banco. Je cours, mais un petit policier jaune m'accroche. Pour courir, c'est que je me suis mal conduit. Du moins, il le pense. Incroyable, dis-je, je suis revenu à Tokyo sans m'en apercevoir. Non, j'erre seulement dans la concession japonaise. Je crie « Vive le Mikado !» Et on me relâche. Je vais, j'ai juste l'argent nécessaire pour continuer mon voyage. Si je ne sors pas de cette ville infernale, les banques vont me le prendre sous prétexte de me le changer. Oh, je connais le jeu. Voilà 6 mois qu'elles me font la cour. Après, je serai forcé d'en appeler à mon consul et me rapatriera à fond de cale, comme les veaux frigorifiés à l'époque de ça. Fuyons. Banque, banque, banking, banco. Oh, c'est trop. Je reste inanimé sur la chaussée. Et quand je reviens à moi, c'est dans les bras d'un agent de police annamite, son petit abat-jour pointu sur la tête. Quoi ? Criai-je. Suis-je déjà à Hanoï ? Toi, pas Hanoï, toi, Shanghai, concession française. Merci, cher enfant du Tonkin. Maintenant, indique-moi un hôtel. « Beau hôtel, beau toit, pas loin. »« Oui, mon frère, mais où donc ?»« Facile de trouver, à gauche, entre deux banques. »« Oh, je m'effondrerai définitivement. » D'un bout à l'autre, Shanghai à 20 kilomètres. Si vous ne vous rendez pas compte de ce que ce fils de Sem et de Japhet ont pu construire sur ces terrains jaunes, c'est que vous ne serez jamais digne de comprendre l'élégance d'un cube de pierre. Au centre est New York, mais un New York qui voudrait crâner plus haut que la peau de son crâne. Tout le long du quai du Whampoa, et c'est long, c'est Saint-Denis, c'est même Saint-Étienne. Il n'y a pas trop de deux saints pour faire monter toutes ces fumées au paradis. Voilà des jardins, des femmes pas plus hautes que ça et qui ont des bosses dans le dos. C'est le quartier japonais. La japonaise, sitôt que son enfant est né, sans doute pour se venger, le porte par derrière. Plus loin, aux fenêtres, ce sont des hommes et des femmes qui dépérissent comme des arbres qui n'ont plus de terre autour de leurs racines. La rue des réfugiés russes. Ah, voici la concession française. C'est la seule. Les autres sont confondus dans la concession internationale. 200 000 Chinois vivent sous nos lois. Il y a un conseil municipal, tout comme à Pontoise et à Paris, et un conseil général. Auguste Wilden, que ses administrés de couleur appellent dans leurs lettres suivant le jour « Votre grandeur, mon colonel, votre sainteté, votre majesté, voire mon curé. » Puis il y a la ville chinoise. Celle-ci, je la remercie d'avance. Elle assurera le bonheur de mes vieux jours. Je vais rentrer à Paris, je raflerai toutes les pinces à linge que je trouverai. Je reviendrai sur le Huangpo et m'installerai à l'entrée de la cité indigène. Avant d'y pénétrer, tout le monde m'achètera mon petit instrument pour se boucher le nez. Je reviendrai milliardaire. Maintenant, lâchez dans tout cela autant d'autos de luxe que vous imaginerez, des écuries entières de poneys endiablés, trams électriques sans rails, des légions de brouettes, 30 000 coulis pouces vous filant dans les jambes comme des lapins mécaniques, et vous pourrez servir chaud. Vous aurez Shanghai, exposition permanente, des races, des mœurs et des tares du globe. La piraterie, le jeu, les cocktails, $1 million, c'est le nom du cocktail de Shanghai. L'opium, la morphine, la cocaïne, l'héroïne. Préparez-vous, jeune vieille garde de l'intoxication. Shanghai va lancer l'héroïne. Trouve dans Shanghai la ville de leur éternel printemps. Le soir, vous aurez à déposer telle somme à tel endroit. Sinon, dans 8 jours, une bombe éclatera sous vos comptoirs. Et si à la place de l'argent, je rencontre des policiers, j'irai en prison. Mais, par d'autres soins, 2 bombes au lieu d'une vous seront réservées. C'est un circulaire hebdomadaire du larron chinois aux banques. Banque, banking, banco. Shanghai n'a qu'une pensée, le jeu. Le patron joue à la hausse ou à la baisse. Le boy joue au machang. Le coulis joue sur ses doigts. La somme ne fait rien à l'affaire. L'un hasarde 10 000 taels, l'autre 1 sepek. Mais c'est comme les chrétiens à la sainte table, à 7 minutes, tous sont égaux. Le maître entre jouer sur le comptoir d'une banque, le chauffeur l'attend en jouant sur le trottoir. Et quand ils remontent en auto et qu'ils ont gagné tous deux, ne vous trouvez pas sur leur chemin. La voiture file ivre de joie, mais ils écrasent tous les chiens. Par malheur, on en devient fou. Et la folie à Shanghai se traduit par une manifestation peu connue. Ces malheureux Shanghaïens ont fait confectionner des voitures dont le marchepied est juste à la hauteur des trottoirs. Dès le matin, ils sautent dedans, restent debout, et le poney part bride abattue. On n'entend plus sur le bitume que le sabot courageux de la petite bête. Et tous les 200 mètres, le cheval, devenu mécanique, s'arc-boute sur ses pauvres jarrets de derrière. La voiture s'arrête d'un coup. L'homme bondit dans une banque. Il en sort et rebondit dans la voiture. Et il fait ça de 9h30 à midi et de 2h à 4h, au triple galop, debout, toujours debout. On m'a dit que ce n'étaient pas des fous, mais des brokers, courtiers de change. N'en crois rien, car le lendemain j'ai bien regardé et j'ai vu que c'était des fous. Quand le soir tombe, ces gentlemen endossent le smoking et vont au cercle sportif danser. À l'heure troublante du tango, on éteint les lumières. Peine perdue, leur tatouage apparaît quand même. Ils ont tous $1 sur le front. Voilà la Chine. En vérité, je vous dis qu'elle est folle. Maintenant, si vous ne le croyez pas, allez y voir.